Merci Marie-Alix Sauté. On vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous. Un secret des sources exceptionnel ce matin avec des grands reporters radio de Radio France et de télé.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. C'est la base du métier de journaliste. Le reportage est l'élément dans un journal radio, télé ou en presse écrite qui nous éclaire. Raconter le monde qui nous entoure pour mieux le comprendre. Autant dire, le reportage est essentiel. Les reporters de terrain, petits-fils et filles d'Albert Londres, sont précieux dans une rédaction. Ils ont la passion du journalisme. Ils font preuve de curiosité, toujours et souvent de courage. Les coulisses des meilleurs reportages de l'année, on en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Anne Lamotte, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter à France Info et vous avez gagné le prix du reportage Radio France 2015 pour « Les gens m'appellent Enjoy Phoenix ». Philippe Frandet, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter à France Inter et vous avez couvert les attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Vous étiez rue de Charonne. Xavier Mounz est avec nous également, bonjour.
Bonjour.
Lauréat 2015 du prix Bayeux des correspondants de guerre pour votre documentaire remarquable au cœur de la ligne de front, encerclé par l'État islamique et diffusé sur Arte. En duplex de Grenoble, Omar Waman. Bonjour Omar.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes le correspondant de France Culture et de Radio France au Liban et vous allez nous parler ce matin de votre reportage, un document exceptionnel là encore, diffusé dans le magazine Interception sur France Inter en octobre dernier, 12 jours dans la vie d'un réfugié. Notre regard extérieur aujourd'hui, Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Et dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Alexandre Agège, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources. Et on va débuter avec vous, Omar Waman, et un extrait de votre reportage « 12 jours dans la vie d'un réfugié » et cette traversée angoissante de la mer Égée entre la Turquie et l'île de Chios en Grèce. Le reportage, l'extrait choisi, débute sur la plage avant d'embarquer.
Les passeurs sont menaçants. Ils demandent aux réfugiés de mettre leur gilet de sauvetage et de monter immédiatement à bord du bateau pneumatique prévu pour une dizaine de personnes. Les migrants ne comprennent pas. Ils devaient voyager de jour, ils vont traverser la mer Égée en pleine nuit. Certains prient, d'autres se tiennent la main. L'un des passeurs est en maillot de bain. C'est lui qui a démarré le bateau. Soudain, il plonge dans l'eau et regagne la rive à la nage. Désormais, nous sommes seuls. Et celui qui est chargé de nous conduire à Chios est un réfugié. Il n'a aucune notion de navigation. Nous partons dans la mauvaise direction. C'est mon GPS qui, finalement, nous donnera le bon cap.
Il va trop vite. Il faut garder ce cap. Non, 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 placer, non, placer, non. This is Chios here.
That's good. Tamam, tamam.
À droite. Al-Yamin. Il est 3h du matin. Le ciel est étoilé. Ça bouge beaucoup. Il y a des vagues, il y a des grosses vagues. On devait partir de jour, on part de nuit. Mais on tient le cap là, on voit les lumières. Chios scintille au loin. Mais la lune a disparu, elle est derrière des nuages, on ne la voit plus. Du coup, mais il fait noir. Heureusement que une partie du ciel est étoilée.
Where are you going?
Are
we talking about the international sea order?
Ok. On va quitter les, les eaux turques, d'après ce que nous dit le capitaine, qui n'a pas été beaucoup formé. En tout cas, la première question qu'il nous a posée, c'est où est Chios ? Il ne savait pas où se trouvait Chios. Du coup, on a eu un démarrage compliqué. Mais là, depuis, on avance. Al-Yamin, c'est à droite, Al-Yassar, c'est à gauche,
Oh, there is a boat, There is a boat. Fish ship.
Là, on a croisé un bateau qui fonçait droit sur nous. Et on a pris plus à l'est pour le contourner. Un bateau de pêche. On est entassés, on est les uns sur les autres. C'est pour ça que les enfants ils pleurent. Ils sont vraiment entre nous, pris en sandwich. Les parents ont tellement peur qu'ils tombent dans l'eau qu'ils les ont vraiment mis au milieu du bateau. Chios est là, plus que 2 petits kilomètres. C'est le port là-bas. Hey, faut pas bouger, matharak. On voit rien. On ne sait pas si c'est une plage ou si ce sont des rochers. Si ce sont des rochers, on peut aller s'écraser dessus et on va tous être dans l'eau. Ce serait très dommage parce qu'on arrive. Et là, on longe Chios. On voit les habitations. On nous propose d'aller là-bas, mais il y a des pierres. On s'est pris les rochers.
لا حدا يتحرك
يلا يا جماعة
يلا شوي 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 وصلنا شوي شوي
يا جماعة واحد واحد
نعيبة
واحد يلا يلا صلوا
محمد خايف أبخل الضفور
عطيل من وراك
بوك un peu la cohue là on arrive à Kios
ok صلوا على محمد
Est-ce que c'est la Grèce ?
Happy ?
Ah, je suis content. Je suis content, j'ai envie de pleurer.
Les gens se débarrassent de leur gilet de sauvetage. On n'en a plus besoin.
Nous l'avons fait. Nous voilà en Europe. Nous sommes en Europe. C'est fait, mais c'était si dur.
Je remercie Dieu parce que quand le bateau a tapé les rochers, j'ai vraiment eu peur.
Mais c'était. On était arrivé.
Ça fait du bien, ces chants, Omar Ouaman. On a vécu avec vous cette traversée grâce à la radio, grâce aux voix que vous nous avez fait entendre. Al-Yamin à droite, on comprend bien que le bateau dérive. Omar Ouaman, heureusement que vous aviez un GPS lors de cette traversée. Racontez-nous un peu les vagues, le courant, les cris, les pleurs.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que on nous a amenés sur cette plage, on devait voyager de jour, comme je le dis dans le reportage, et c'est une vraie surprise hein, quand on nous demande de monter dans ce petit bateau, hein, un bateau qui peut contenir un grand 20 personnes, grand maximum, et on est 50 personnes, dont 17 enfants. Et cette petite famille d'Idlib, ville du nord de la Syrie, il y a Wassim, Maya, Lotus et leur tout petit Mohamed Tem. Ce qui se passe, c'est que le guidage de ce bateau est confié à un réfugié lui-même.
Qui n'y connaît rien.
Syrien d'origine. Qui a négocié la gratuité du voyage. C'est-à-dire que les passeurs ne veulent pas se faire prendre par les autorités grecques ni turques. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'identifier quelqu'un susceptible de conduire le bateau, et en échange, il ne paye pas. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il nous a raconté en arrivant qu'effectivement, il avait très très peur lui-même. Et ce qui explique aussi pourquoi il n'y arrive pas, c'est parce que le bateau est plein, donc il n'a aucune visibilité devant lui. Il fait nuit, il est 3h du matin. Enfin, tous les paramètres sont mauvais. Et donc, moi, à ce moment-là, je me rends compte qu'on est vraiment en train de dériver. Donc, je sors effectivement mon GPS et je me rends compte qu'on est très, très loin. Donc, il faut revenir en direction de Chios. Sinon, on serait vraiment allé très loin et là, il y aurait eu un grand danger.
Alors, on entend le soulagement, la joie d'être arrivé en Grèce, la sécurité retrouvée par rapport à ce que ces gens ont vécu en Syrie. Cette famille, vous l'avez rencontrée pourquoi avez-vous décidé de la suivre, elle, et pas une autre famille ?
Alors, l'idée, c'était vraiment de choisir une famille et de la suivre du point A au point Z, c'est-à-dire que vraiment de sa sortie de la Syrie jusqu'en Europe occidentale. Donc moi, je me suis rapproché de la frontière turco-syrienne. Il faut savoir que cette frontière est fermée, que les Turcs l'ont totalement fermée, elle est totalement hermétique. Donc je me suis rapproché, j'ai eu quelques difficultés avec les soldats turcs. Résultat, je me suis rendu à Hatay, qui est une ville du sud de la Turquie, Antakya, l'antique Antioche. Et là, il y a une gare routière où de nombreux Syriens partent depuis cette gare vers Izmir, qui est cette ville de la côte ouest de la Turquie, de là pour prendre un bateau pour la Grèce. Donc j'ai eu pas mal de vraiment du mal à trouver quelqu'un parce que les familles avaient peur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis monté dans un bus et j'ai rencontré vraiment par hasard cette famille. Et quand je me suis présenté, j'ai expliqué ce que je voulais faire, le projet. Elle a tout de suite dit oui. Elle était vraiment emballée parce que c'est une famille qui partait dans l'inconnu, à l'aventure, avec ses deux enfants. Et m'avoir comme ça à leur côté, sachant que je leur avais dit que j'avais un téléphone satellite, que j'avais un GPS, que j'allais être avec eux, ça les a rassurés.
Et là, Omar, donc Wassim, Maya, les parents, Mohamed Ten et Lotus, les enfants, 3 et 4 ans, bientôt 4 ans. Hein. Là, les parents vous disent on veut aller en Suède, pas en France. Ils savent où ils veulent aller.
Oui, ce sont deux ingénieurs. Lui est ingénieur en informatique. Elle est topographe. Ce sont des gens éduqués, très lettrés, qui suivent l'actualité internationale et qui ont vent, évidemment, des difficultés identitaires de la France. Ils avaient vent de la montée du Front National. Ils avaient peur, vraiment très peur d'être mal accueillis. Voilà. Ce sentiment d'être mal accueilli quand on vient d'un pays en guerre comme la Syrie, c'est quelque chose d'assez dur. Contrairement à des pays comme la Suède ou l'Allemagne de Merkel, où là, les images sont allées jusqu'à Idlib, les images de ces personnes, ces Allemands, de ces Suédois accueillant les réfugiés sur les quais de gare ou dans les aéroports. Ça, c'est quelque chose de très fort. Donc la France, évidemment, ce n'était pas leur option.
Alors, durant cette traversée, Omar, donc Turquie, Grèce, Macédoine, Serbie, Hongrie et Autriche, avant d'arriver en Suède, combien de fois avez-vous été contrôlé lors du trajet ?
Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est le flot de réfugiés. Il faut savoir que Lorsqu'on est arrivé en Grèce, les réfugiés ont demandé un laissez-passer, hein, une espèce de document qui leur ont permis de quitter Athènes et d'aller en Macédoine. C'est une espèce de laissez-passer. Bon, il se trouve que moi, je n'avais pas laissez-passer dans la mesure où je ne suis pas un réfugié. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un billet de bateau pour quitter Chios et aller à Athènes. Et c'est la seule fois durant ce voyage de 3000 km que j'ai présenté un document. C'est-à-dire que quand j'ai traversé la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, je n'ai pas montré un papier, je n'ai pas ouvert mon sac. Il faut savoir que ce sont des réfugiés qui viennent d'un pays en guerre. La guerre en Syrie est une guerre atroce. Il y a des belligérants, de toutes sortes de belligérants, des plus modérés aux plus radicaux. Et évidemment, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais qui est dans ce bateau ? Et dans ce bateau, le petit bateau de 50 personnes dans lequel j'ai voyagé, il y avait des chrétiens d'Alep, il y avait des habitants de Raqqa. Il y avait la famille d'Idlib, il y en avait d'autres de Damas. Toute la Syrie était concentrée là dans ce petit bateau. Et parmi ces migrants, il y avait sûrement des gens qui ont été combattants parmi tel ou tel groupe. Donc voilà, moi je me suis posé la question, ça m'a traversé l'esprit pour tout vous dire.
Omar Oman, quelle place occupe ce reportage dans votre carrière ?
Alors moi j'ai beaucoup travaillé sur les réfugiés, dans les camps. Je suis allé en Syrie à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était là, à Kobané, au printemps dernier. Je trouvais que ces reportages avec les réfugiés, très bien, hein, qu'on a fait, qu'on a tous fait, mais trouvaient peut-être une limite, qui était celle de ne pas vivre les moments les plus importants, les plus dangereux, à savoir cette petite traversée qui peut nous paraître petite, mais elle a duré 2 heures, c'était totalement infernal. C'est-à-dire que ce bateau de pêche se dirige vers nous, alors qu'il suffit que l'une des vagues, parce qu'il a remué, hein, eh bien, fasse chavirer le bateau, on est tous dans l'eau au milieu de nulle part. Hein. Donc, moi, c'est un reportage que je voulais faire. J'étais candidat et j'ai trouvé en Radio France, ça c'est très important, les interlocuteurs qui m'ont dit, vas-y, le risque zéro n'existe pas. C'est très important, ça, hein, de partir en se disant que je peux eh bien, échouer dans ce reportage, tomber dans l'eau, le matériel eh bien, tombe dans l'eau, le son est inexploitable. Enfin, ma sécurité prime, évidemment, mais je suis parti pour faire un reportage. Avant tout, moi, je ne suis pas un militant d'association d'aide aux réfugiés, hein, mais je me suis dit, il faut être avec une famille et la suivre pour l'humaniser un maximum. Essayer de faire comprendre à l'auditeur que derrière ces parcours, il y a des parents qui veulent offrir une vie meilleure à leurs enfants.
Merci, Omar Oman. 12 jours dans la vie d'un réfugié.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
On part en Irak, dans les montagnes du Sinjar.
Depuis 2 mois, une nouvelle unité de combattants s'est constituée sur le Sinjar. Les Yebeshé, l'unité de résistance du Sinjar. Elle est uniquement composée de Yézidis. C'est le commandant d'Ilcher, assis au centre, qui les commande.
Daesh a installé la peur dans le monde, en égorgeant des êtres humains, des enfants, en décapitant des gens. Ce n'est pas en terrorisant les civils qu'on mène une guerre. Cette propagande n'a pas d'effet sur nous. Nous, on s'entraîne et on se prépare comme de vrais soldats. C'est la première fois dans l'histoire que les Yézidis prennent leur destin en main, d'où l'importance de la création de cette unité. Cette unité évolue afin d'empêcher d'autres génocides. La deuxième chose, c'est que pour la première fois, des filles yézidis ont pris les armes au sein d'une force militaire pour défendre leur position.
Ces jeunes yézidis sont formés à se battre en première ligne. Hommes et femmes, sans distinction. Comme Dersim. Elle a 22 ans. Avant de rejoindre cette unité, elle travaillait comme coiffeuse dans un salon de beauté.
Comme tout le monde, on a dû fuir et se réfugier dans la montagne. Nous sommes 5 sœurs et 2 frères à être entrés dans le Yébéché. Ce dont Daesh a le plus peur, ce sont les femmes. Le monde doit connaître la force des bataillons de femmes, savoir qu'elles font face à leur ennemi pour que plus jamais la femme ne soit soumise.
Chez les combattants kurdes, les femmes occupent la même place que les hommes. Se battre côte à côte n'est pourtant pas une évidence pour des hommes souvent issus d'une société aux valeurs traditionnelles et conservatrices. Le recrutement comprend aussi une formation idéologique.
Parce que notre cours porte sur le rôle de la femme, nous allons mettre l'accent sur ce qu'elle subit. L'exploitation de la femme par l'homme a vidé la société de son sens. Cela nous empêche d'évoluer. Tout dans la société pousse la femme à être dépendante de l'homme. La femme qui connaît son rôle et sa place n'acceptera pas cela et pourra se libérer.
Sur le front, les femmes paient aussi un lourd tribut. La combattante qui avait soigné Jamil a été elle aussi blessée, quelques heures plus tard.
Encerclé par l'État islamique, prix Bayeux des correspondants de guerre, Xavier Mouns, vous avez tourné ce reportage il y a tout juste un an, à Noël 2014. Depuis, les combattants kurdes ont repris la ville de Sinjar à l'État islamique. C'était en novembre dernier, le mois dernier. Alors, dans votre reportage, on voit que les femmes ont une place importante dans les unités de combat.
Alors oui, ça c'est une des caractéristiques des milices formées par le PKK, puisque cette unité de combattants yézidis, qui sont les Yébéché, les YBS, donc les Yekidi Berodana Shengale, les unités de résistance du Sinjar, ont été mises en place par le PKK au moment du siège vers le mois de septembre. Et comme dans toutes les autres milices que gère le PKK, elles sont mixtes. Alors pour les yézidis, c'est une grande première. Hein. Leur seule façon de combattre avant, c'était d'intégrer l'armée du Kurdistan, les Peshmerga. Mais là, évidemment, les femmes ne pouvaient pas combattre. C'est aussi une grande première pour le PKK, puisque c'est même la seule de leurs milices qui, quelque part, est communautaire. Puisque les yézidis sont des Kurdes. Donc on a des Kurdes chrétiens, des Kurdes musulmans et des Kurdes yézidis. Et là, c'est la seule milice où, pour pouvoir en faire partie, il faut appartenir à cette communauté religieuse. La spécificité dont on parlait, c'est cette mixité. qui est assez particulière dans cette région du monde, puisque la place des femmes n'est pas du tout la même qu'en Occident.
Alors oui, et puis il y a cette scène que l'on a entendue dans l'extrait choisi, que je trouve assez remarquable et assez extraordinaire. On entend une femme expliquer, donner un cours aux combattants hommes, que l'exploitation de la femme par l'homme, ça doit cesser. Et tout ça alors que les combats se déroulent pas très loin et devant les combattants armés. Comment réagissent les combattants lorsque la caméra ne tourne plus?
Ça, de toute façon, ils ont l'habitude, hein, puisque, comme je le disais, ce sont des milices qui ont été créées par le PKK, et c'est très caractéristique du PKK, cette formation idéologique. Alors, ils sont très fans de cours d'histoire aussi, j'ai assisté à des cours d'histoire, et à ces cours de féminisme. Parce que, justement, pour ces hommes pétris de culture moyenne-orientale, se battre à côté d'une femme ou recevoir des ordres d'une femme, c'est pas tout de suite évident. Alors, pendant le cours, j'ai fait beaucoup de plombs d'écoute sur les hommes, parce que, justement, j'étais intéressé de savoir comment ils allaient recevoir cette formation, comment ils allaient recevoir cette forme d'instruction. Alors, j'ai été étonné, parce qu'il y en avait beaucoup qui prenaient énormément de notes, et d'autres qu'on sentait un peu plus perplexes, qui prenaient l'information, mais on se disait qu'il y avait encore du travail à faire.
Alors Xavier Muntz, vous êtes avec cette unité de résistance au cœur des combats. Des personnes sont blessées à côté de vous lorsque vous filmez, puisque les balles traversent les parpaings de protection. Vous, de quelle protection vous disposez?
Alors sur le terrain, moi j'ai un gilet pare-balles et un casque lourd, c'est tout.
Il y a des moments quand même très angoissants, Xavier Muntz, pour le téléspectateur, hein, lorsque vous nous dites que après avoir pris la colline, mais maintenant il va falloir prendre les quartiers, que la bataille du souk va commencer, et vous êtes avec les combattants, et on est à Noël 2014, hein, tout juste un an. Hein, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous êtes père de famille, vous avez deux enfants adorables, tout petits, Abel et Clélie, et eux, ils sont à Paris, vous êtes dans le Sinjar.
Là, c'est évidemment des conditions de travail très particulières pour moi. D'habitude, quand je me rends sur ce genre de terrain, donc mes enfants savent que le travail que je fais, mais je donne jamais de détails. Sur le terrain, j'évite aussi d'avoir trop de nouvelles, parce que c'est typiquement le genre de choses qui peut vous couper les jambes quand vous êtes dans une situation de conflit, vous êtes en première ligne, on peut vite se demander ce qu'on fait là, pourquoi on est là et qu'on serait mieux avec sa famille à Paris. Là, tout était un peu plus difficile en raison de la période, puisque c'était à Noël. J'avais promis à mon ex-compagne d'appeler mes enfants à Noël. C'est donc ce que j'ai fait. Le jour de Noël, j'ai pris mon téléphone satellite. Je suis redescendu de la première ligne pour aller en deuxième ligne, donc en bas de cette colline qu'on voit dans le film. Le problème sur cette deuxième ligne, c'est qu'elle était bombardée par l'artillerie de Daesh, par les mortiers de Daesh, et régulièrement, tous les soirs, ils bombardaient. Évidemment, ça n'a pas manqué quand je suis monté sur le toit pour appeler mes enfants. Au bout de 10 minutes, ils ont commencé à bombarder. Donc moi, à ce moment-là, j'avais qu'une seule crainte, c'est que mes enfants me disent « Papa, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces bombardements qu'on entend autour de toi ?» Ils ont rien dit. Le problème, c'est quand on se trouve sur un toit au moment d'un bombardement, c'est pas une très bonne idée. À ce moment-là, Daesh a commencé à ajuster son tir et les impacts d'obus étaient de plus en plus proches. Donc j'ai dit à mes enfants de me repasser leur maman, que je devais y aller. Bon, je leur dis pas pourquoi, la mère non plus. Hein, je raccroche et je vais me mettre à l'abri. Donc ça, c'était le jour de Noël. Dans la nuit, ils ont vraiment amélioré leur tir, puisque la maison à côté de la mienne a pris un obus. Il y a quand même eu 5 morts et 6 blessés. Donc le matin, quand on se réveille, qu'on doit retourner en première ligne, qu'on est juste après Noël, moi vraiment c'est là où ça m'a coupé les jambes. Je me suis dit, ça m'a hanté toute la journée. Je me suis dit, je peux pas faire ça, je peux pas mourir le jour de Noël. C'est pas un super cadeau à faire à ses enfants. Mais c'est quelque chose. C'est ma mortalité. J'y pensais pas avant ça. J'étais dans cette immersion avec ces combattants, je suivais leur combat, leur résistance, et c'est quelque chose qu'on a souvent quand on filme, parce qu'on a le prisme de la caméra qui on a un écran supplémentaire par rapport à la réalité. Ça se passe dans le cadre de la caméra, mais en même temps, il faut jamais oublier que la vraie vie, elle est en dehors du, elle se passe aussi en dehors du cadre. Et ça, faut jamais le perdre de vue. Et voilà, moi, typiquement, l'année dernière à Noël, après le coup de téléphone de mes enfants, ça a été très très dur. Ça m'a hanté tout le temps pour terminer ce film. D'ailleurs, le lendemain, j'ai appelé mon rédacteur en chef, Paul Moreira, et je lui ai dit « Paul, j'en peux plus ». Et il m'a simplement dit « décroche tout de suite, on te ramène à la maison ».
Vous avez des nouvelles du groupe de combattants que vous suiviez ?
Alors j'en ai un petit peu, certains sont morts, beaucoup sont morts. Un des personnages qu'on voit dans le film, Bérodan, lui est mort pendant le montage. D'ailleurs je devais l'appeler, on n'arrivait pas à le joindre, et puis finalement... On a compris pourquoi on n'arrivait pas à le joindre. Les commandants qu'on suit sont toujours là. Tchakou, Aguide, ils sont toujours sur la montagne. Bon, maintenant, ils ont peut-être été redéployés sur une autre ligne de front, puisque le Sinjar a enfin été libéré après presque 10 mois de combat. Mais c'est tout.
Xavier Mounz, encerclé par l'État islamique, prix Bayeux des correspondants de guerre 2015. Christmas Day du groupe Phoenix, groupe français, un groupe de Versailles. Le 13 novembre dernier, le choc, l'horreur en plein Paris. Philippe Randet, vous êtes rue de Charonne, près du restaurant La Belle Équipe.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure qu'il est ici, rue de Charonne, nous sommes bloqués par la police, évidemment, et par beaucoup de militaires très nerveux. Le quartier est bouclé, selon plusieurs témoins, juste devant nous, à quelques... dizaines de mètres à peine, plusieurs personnes ont été tuées sur la terrasse d'un bar ou dans un bar, ce n'est pas très clair. Je peux vous dire que...
À quelques dizaines de mètres du lieu de la fusillade, Jean observe les corps sans vie allongés sur le trottoir. Quand les mots manquent, quand l'inimaginable se produit, ce jeune Parisien était à quelques mètres des terroristes lorsqu'ils ont fait feu sur la terrasse.
On a pris bien 20 secondes à se rendre compte que c'est des coups de feu. J'entendais surtout les cris des proches des corps qui... Il y a une tension animale, un peu comme quand on rentre dans un abattoir, un truc comme ça. On entend des cris qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et ça réveille en nous une peur viscérale.
Une peur viscérale qui s'est parfois transformée en panique hier soir dans la rue de Charonne. Alors qu'une voiture refuse de s'arrêter, les militaires mettent en joue le conducteur tout en hurlant aux passants de partir se cacher. Des passants qui, pour certains, sont restés cachés de longues secondes accroupis dans des arbustes. Sophie a 25 ans.
C'est inhumain, je trouve ça inhumain de faire des choses pareilles, quoi. Là, j'ai de la chance, j'ai eu les personnes qui étaient au restaurant et je sais qu'ils vont bien, mais je sais que pour d'autres c'est pas le cas et ça me fait de la peine que des gens subissent ça. Enfin, c'est quelque chose d'horrible à vivre, c'est horrible de vivre ça dans sa vie.
Philippe Randet, on vient d'entendre deux de vos reportages, dont l'un en direct le soir des attentats. Comment apprenez-vous qu'il y a une série d'attentats à Paris et à Saint-Denis ?
Sur Twitter, je commence à voir qu'il y a des fusillades, du coup j'appelle mon chef directement. J'habite juste à côté en fait de la rue de Charonne, dans le 11e arrondissement, et puis je vois qu'il y a des fusillades, donc j'appelle mon chef de service, je lui dis je crois qu'il se passe quelque chose, et il me rappelle un quart d'heure après, il me dit vas-y, donc j'arrive assez rapidement en fait à 22h30 sur place rue de Charonne, je prends mon scooter, je garde mon scooter et je vois tout de suite qu'il y a pas mal de police et de militaires qui sont déjà sur place. je réussis à m'approcher un peu de la belle équipe, mais très honnêtement, on comprenait pas très bien ce qui était en train de se passer. On savait qu'il y avait eu déjà des problèmes dans le dixième. On avait déjà entendu parler du Stade de France, mais voilà, je me suis approché de cette rue de Charonne que je connais bien parce que j'y passe régulièrement en scooter, et je connaissais pas ce bar, la belle équipe. Donc sur le moment, on comprend pas bien ce qui se passe et on fait des directs. En impro, où on essaye de raconter ce qu'on voit, en même temps on voit pas grand chose. J'ai pas trop compris sur le moment, puis moi j'étais vraiment dans mon reportage sur la belle équipe, donc j'ai pas compris tout de suite l'ampleur des attentats ailleurs dans Paris, même si j'ai compris tout de suite qu'il se passait quelque chose de majeur, ça c'était évident.
Donc vous êtes dans le reportage, vous faites votre métier, Philippe Randé, à quel moment arrive le contre-coup? Quel moment vous dites, c'est vraiment près de chez moi, j'ai peut-être des amis?
Bizarrement, mes amis vont peut-être trouver ça bizarre, mais je me suis jamais posé la question, en fait. On a l'habitude, à Radio France, de partir à l'étranger, de faire des terrains de guerre, etc., etc. Et c'est vrai que quand je suis en reportage, à un moment donné, j'oublie l'environnement autour de moi. Je savais que ma copine était chez nous, puisque je l'avais quittée à ce moment-là.
Ce que disait Xavier Mouns dans le cadre de la caméra, ça se passe aussi autour du cadre.
Absolument.
On l'oublie un peu, c'est
absolument.
Vrai.
Je savais que ma copine était en sécurité, puisque elle était dans l'appartement avec moi au moment où je suis parti, mais je me suis pas trop posé la question sur les autres gens. Il y a un moment qui m'a vraiment marqué, c'est à 2h du matin, à la fin de l'édition spéciale, je prends mon scooter pour traverser Paris pour aller à la maison de la radio, donc du 11e à la maison de la radio. Ça fait vraiment la traversée de Paris, et il y avait personne évidemment dans les rues de Paris. À un moment donné, au niveau de la rue de Rivoli, devant l'hôtel de ville, je vois un camion de pompiers qui me coupe la route assez vite, et j'étais tout seul derrière lui, et là je vois 3-4, je sais pas ce que c'était, si c'était des médecins ou des gens de la protection civile, complètement paniqués dans le camion de pompiers, livides, en train de s'affairer autour de quelqu'un qui devait être probablement un blessé très grave du Bataclan ou d'ailleurs. Et là, je me suis dit, cette image, je me suis dit, il se passe quelque chose de grave. Et puis, je suis rentré à la radio, monté le reportage, puis on a enchaîné sur le Bataclan. Je suis parti à Bruxelles dans la foulée sur l'état d'urgence. Donc, je me suis jamais vraiment posé la question.
Philippe Randé, vous avez couvert des guerres en Afrique, en Ukraine. On a parlé de guerre pour les attentats du 13 novembre. Qu'en pensez-vous?
Évidemment, ça a été horrible pour tous les gens qui sont morts et tous les gens qui sont blessés. C'est quelque chose de terriblement traumatisant. En même temps, vu par ce qu'on fait d'habitude, je dirais pas que c'est un pays en guerre.
Xavier Mouns.
Moi non plus, hein, je parlerai pas de ça. Mais au-delà de ça, je parlerai même pas d'une guerre. Une guerre, c'est des combats. Là, c'était de l'exécution pure et simple de civils. Ça n'a rien à voir avec une guerre.
Absolument. Et puis, voilà, une fois que les attentats ont été terminés, évidemment, il y a eu toute la psychose des jours d'après, mais on n'était pas dans un pays en guerre. Il n'y avait pas des obus qui tombaient sur Paris. Voilà, ça a été des actes abominables, terribles, lâches, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on dit et qu'on répétera. Mais j'avais pas l'impression d'être dans un pays en guerre, même le vendredi soir à Paris, malgré la nervosité des forces de l'ordre.
Philippe Randé, grand reporter à France Inter. Merci, Philippe Randé.
Le secret des sources.
Anne Lamotte, grand reporter à France Info, est-ce que vous avez couvert les attentats du 13 novembre ?
J'étais à la radio, je ne suis pas allée sur le terrain. J'étais à la radio. J'ai dit je suis disponible, je suis venue ici, j'ai travaillé d'ici.
Alors on change de sujet et d'atmosphère avec votre reportage. Les gens m'appellent Enjoy Phoenix.
Nous sommes dans le couloir d'un grand centre commercial de la Défense, ouais. Tout près de Paris.
C'est quand même le stress là, j'ai mal partout, j'ai la gorge en feu là.
Marie Lopez, pseudo Enjoy Phoenix, tremble littéralement.
Ah putain, je me sens pas bien.
Marie s'apprête à entrer dans la salle où des milliers d'adolescentes l'attendent, certaines sur le qui-vive depuis des heures. Ah. La jeune fille, très blonde, très maquillée, très manucurée, mais simplement en jean basket, affiche alors son plus joli sourire et, escortée d'une dizaine de vigiles, se jette dans l'arène. Et une dizaine de vigiles, ça n'est pas de trop. Car la foule est impressionnante, les fans hystériques, certaines fondent en larmes. Emma, 13 ans, n'en revient pas.
Ah, moi j'ai trop envie de crier Marie, Marie, je t'aime, mais j'ose pas parce que là j'ai un peu la honte devant tout le monde. Mais bon, je l'adore, je regarde plein de vidéos d'elle, je suis trop contente, là, je vous jure. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage.
Les vidéos de Marie. La jeune fille se filme depuis plus de 4 ans maintenant, depuis sa chambre, son salon, sa salle de bain.
Top, c'est parti. Donc, je commence avec le bikini.
Conseil fond de teint, blush et mascara, donc. Mode aussi, mais pas que. Dans ces vidéos, Marie, allure de poupée parfaite, aborde aussi très facilement et très simplement acné, bourrelet ou vergétures.
Ça fait un petit moment maintenant que je les ai et j'ai eu beaucoup de complexes par rapport à
ça. Et ça parle à Célina, en classe de 5e et qui se trouve beaucoup trop grosse.
Quand on est gros,
grosses, on a des formes, que nos copines elles sont minces, que je sais pas, qu'on sort pas avec des garçons et tout ça. Elle nous dit que qu'un jour on en trouvera toujours un, quoi. Et que voilà, elle est trop gentille, elle est trop belle.
Et puis il y a aussi cette vidéo.
Donc, on me jetait des trucs, on parlait bien fort pour que j'entende les insultes, c'était génial.
Une vidéo postée l'année dernière dans laquelle Marie explique avoir été victime de harcèlement au lycée.
J'allais dans les toilettes en attendant.
Et elle explique aussi comment elle s'en est sortie.
Première chose à faire, ne jamais rester seule et en parler.
Cette vidéo, qui compte près d'1 600 000 vues sur YouTube, cette vidéo a changé ma vie, avoue Justine.
Elle m'a apporté beaucoup de choses et de la rencontrer, ça.
Justine, 12 ans, bouleversée de voir Marie en vrai. Derrière sa mèche de cheveux, elle raconte qu'elle aussi au collège a vécu un enfer.
Bah, on m'insultait, etc. Que j'étais une pute, une connasse, et on n'arrêtait pas tous les jours et tout. Et grâce à elle, et bah voilà, c'est mon idole. Elle fait comme un peu partie de ma famille.
Marie, c'est ma grande sœur. Marie, c'est ma meilleure amie. Elle est comme nous. Elle nous comprend. Elle nous donne de la confiance, de l'espoir. Voilà ce que disent ces ados. Mais Marie Lopez, c'est aussi une machine de guerre. 2 chaînes sur YouTube. 1 500 000 abonnés, un compte en banque qu'elle veut garder secret, plus d'études et une efficacité à toute épreuve.
Bonjour, c'est quoi ton prénom ?
Sur l'estrade, dans ce centre commercial de la Défense,
hop là. Et voilà.
La jeune youtubeuse dédicace des livres à la chaîne.
Bonjour, c'est quoi ton prénom ?
Comme un robot.
Hop là, et voilà.
Mais alors qui est vraiment Marie Lopez, aka Enjoy Phoenix ? Une fille comme tout le monde, assure-t-elle. Une fille qui a juste commencé à poster des vidéos parce qu'elle se sentait seule, mal dans sa peau et parce qu'elle voulait se faire des amis. Une fille bienveillante, ajoute-t-elle très sérieusement.
C'est ça, il faut vraiment avoir une vraie ambition et savoir ce qu'on veut, surtout savoir qu'on veut le bien des gens qui nous regardent, parce que les gens n'aiment pas trop qu'on les prenne pour des débiles.
Et quand on lui demande si elle se sent star...
Non, c'est vraiment pas ce statut de star que j'ai, parce que justement, je pars toujours du principe d'essayer de pouvoir rencontrer mes abonnés assez facilement. Et puis bon, j'ai juste 20 ans et j'ai fait que des vidéos sur Internet, quoi. J'ai pas fait grand-chose de plus.
Humble, Enjoy Phoenix, ça semble sincère en tout cas. Et c'est ça la clé du succès, d'après son éditeur, Stéphane Carrière. La sincérité et à peine 20 ans, une certaine idée du professionnalisme.
Les gens m'appellent Enjoy Phoenix à la Motte. Il fait du bien, votre reportage, je vous assure.
Vous êtes sûr ? Ça me paraît un tout petit peu ridicule après ce qu'on vient d'entendre, mais bon.
Ça intéresse beaucoup de gens aussi. Vous êtes en présence d'une star, véritablement, avec un agenda pareil à celui d'une rockstar, non, Marie Lopez ?
Ah, j'imagine aujourd'hui, oui. Surtout que depuis, elle est devenue super, super connue, puisque... Aujourd'hui, elle a près de 2 millions de followers sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et j'en passe. Et elle a participé à une émission qui fait énormément de téléspectateurs, qui additionne des millions de téléspectateurs tous les samedis, Danse avec les stars. Bon, elle a été éliminée samedi dernier. J'ai pas suivi pour tout vous dire. J'ai regardé sur Internet avant d'arriver ici. Mais c'est quelqu'un, oui, c'est une sorte... de star, on va dire.
Alors, vous découvrez Marie Lopez, hein, l'occasion de ce...
Ah oui, je la connais pas avant, non. Ouais. C'est pas moi qui ai choisi de faire ce reportage, c'est une commande, je dois le dire. Hein, c'est mon chef qui est venu me voir avec une feuille.
Encore une bonne idée de chef.
Mais tout à fait. Non, pour le coup, j'y croyais pas du tout, pas une seule seconde. Il vient me voir avec une dépêche, je crois, et il me dit, voilà, il y a cette fille qui cartonne sur Internet, il faut faire un truc sur elle. Moi, je lis le truc, je vais voir une vidéo sur Internet, je me dis, Wallalalalala, ça va pas aller du tout, ça va pas me plaire. Je fais un peu la tête, il faut bien le dire, et puis je prends une voiture, je vais à cette séance de dédicace, et là je me dis immédiatement, il y a un sujet, il y a quelque chose, c'est évident, et je range mon arrogance et mon mépris dans ma poche.
Et vous empochez le prix Radio France. Et alors vous découvrez Marie Lopez, vous découvrez aussi ses fans, son public.
C'est surtout ça en fait que j'ai adoré dans ce reportage. C'est bon, Marie, je la rencontre comme on rencontre une star, c'est-à-dire que on m'amène dans un petit bureau où il y a plein de personnes qui s'occupent d'elle et on me dit vous avez 15 minutes. J'ai l'impression d'être en présence de Madonna. Je ne comprends pas très bien ce qui m'arrive, mais bon, je lui pose des questions et puis au bout de 15 minutes, on me dit maintenant. On va aller voir ses fans. Et c'est là que je me dis, mais il y a un sujet qui est énorme et je suis complètement passée à côté de ce sujet avant d'être là-bas. Puisque là, on ouvre des portes et là, il y a en effet entre 4000 et 5000 jeunes filles qui sont dans un état de transe absolu. Et pendant 20 minutes, elles sont en file indienne. Et je pense que ça a duré sincèrement entre 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 minutes. Marie suit cette file d'attente avec... son téléphone, parce qu'elle filme tout, hein. Et donc elle filme ces filles-là, et ça dure très longtemps. Et là, je me dis, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout à ça.
Sans succès, parce qu'on l'entend dans votre reportage, elle parle des bourrelets, des petits bourrelets, de l'acné.
Elle parle pas que de ça, mais elle parle aussi parfois de ça, oui. Mais c'est ça qui plaît à ces jeunes filles, c'est qu'elles se sentent très très proches de
c'est la fille qui nous ressemble, c'est la bonne copine, c'est.
Oui, et en même temps, c'est quelqu'un
comme on le dit dans le reportage, qui est très maquillée, qui est teinte en blonde, qui a l'air d'une poupée. C'est une poupée en apparence, cette fille-là. Donc c'est quelqu'un à qui on a envie de ressembler, j'imagine, quand on a 12, 13, 14 ans. Mais en même temps, c'est une fille, c'est vrai, dans ses vidéos, qui est bienveillante. Elle donne des conseils, comme une grande sœur pourrait le faire. Elle donne des conseils, en effet, quand vous vous faites harceler, quand vous avez des vergetures, quand vous commencez à avoir vos règles, machin, etc. Elle donne des conseils aussi de psy, peut-être de petite maman.
Et vu son énorme succès, j'imagine qu'elle est courtisée par les industries de cosmétiques.
Ça, j'imagine, elle ne veut pas en parler.
Elle veut pas en parler.
Elle avoue qu'évidemment, ce sont les pubs qui passent avant ses vidéos qui lui donnent de l'argent. Et puis, elle fait un placement de produits incroyable, hein, parce qu'à chaque vidéo, elle place des produits. Parfois, non. Sur le harcèlement, par exemple, elle ne parle d'aucun produit. Mais quand elle dit « je vais commencer avec tel fond de teint et je vais ensuite m'habiller avec tel jean », on se doute bien que derrière, il y a le tiroir caisse qui fonctionne. Moi, elle n'a pas voulu parler d'argent avec moi. Je lui ai demandé si elle confirmait le chiffre de 300 000 euros de salaire par an. Elle n'a pas voulu le confirmer. Elle l'a confirmé à demi-mot deux jours plus tard à la télévision en disant que ça s'approchait de ça. Et je pense que c'est beaucoup plus aujourd'hui, d'ailleurs.
Les gens m'appellent Enjoy Phoenix, reportage d'Anne Lamotte. Merci Anne Lamotte. Jean-Marie Charon, sociologue des médias, le sociologue des médias que vous êtes, s'intéresse bien sûr au reportage et au reporteur, c'est-à-dire quelqu'un qui, lorsqu'il se lève le matin, ne sait pas très bien où il dormira le soir. Et vous arrivez avec une bonne nouvelle, Jean-Marie, la vitalité du reportage dans la presse, eh bien, il y a toujours cette vitalité.
Oui, il y a cette vitalité du reportage qui est plutôt pour moi une bonne nouvelle, d'autant qu'on pouvait craindre, il y a peu, la généralisation de ce qu'on appelait le journalisme assis. Pourquoi cette crainte? Eh bien, parce que lorsqu'on regarde la situation du journalisme en France aujourd'hui, il y a 35 800 et quelques journalistes en 2015, ils étaient 1500 de plus en 2009. Donc, face à la chute des ressources, notamment des ressources publicitaires, on voit que les directions n'ont de cesse de diminuer les coûts, y compris les coûts rédactionnels. Alors, moins 4% de journalistes, c'est une érosion qui peut paraître encore modeste par rapport à ce qu'on a connu dans des pays tels que les États-Unis ou l'Espagne. Dans la décennie 2000, c'est moins 30%. Alors, moins de journalistes, mais en même temps, plus de production, puisque les rédactions travaillent sur plusieurs supports, les smartphones, les PC, les tablettes, tout en continuant à travailler sur leur support d'origine. Et puis, chacun de ces supports à ses usages, donc pour chaque support, ce sont des écritures et des formes éditoriales particulières. Soit toujours plus de journalistes assis qui ne sortiraient plus, ou tout du moins qui ne sortiraient plus qu'avec leur téléphone, Skype ou les réseaux sociaux. Alors, sauf que dans ce contexte, une offre se fait jour de reportage, on l'a vu là, plus long, plus lent parfois, souvent décalé, on en a un bon exemple par rapport à l'actualité la plus chaude. Et puis cette offre, c'est surtout ça qui est important, rencontre un public. Un public qui est prêt à financer ses reportages, évidemment en achetant par exemple des publications, parfois chères, 10, 15 euros, prêt aussi à s'abonner par exemple à des sites spécialisés sur Internet, soit à préfinancer ses reportages sur des plateformes spécialisées comme Ulule, KissKissBankBank, J'aime l'info. 31 projets de reportage ou de publication spécialisés dans le reportage, rien que sur cette dernière plateforme. Alors en presse écrite, on peut dire que le sillon qui avait été ouvert par Patrick Saint-Exupéry et Laurent Beccaria avec 21 et 6 mois ne cesse de s'élargir avec des publications comme Muse, L'éléphant, Oui demain et bien d'autres. Et puis, par exemple, un jeune news magazine comme Society, eh bien, risque le genre avec une rubrique régulière spécialisée dans le reportage. Et puis, il y a Internet, où on trouve des rubriques sur les grands sites, mais aussi des sites spécialisés, comme je viens de le dire. Certains sont créés par de jeunes journalistes, et puis, par exemple, le 4 heures, Iceberg, le Zéphyr, mais c'est aussi parfois l'opportunité pour des journalistes plus âgés de revenir sur ce genre et d'y retrouver du plaisir. Alors, le reportage, c'est aussi des formes nouvelles, enfin très diversifiées plutôt, du texte, du son, on l'a vu là, du dessin comme 21, de la photo, 6 mois, Polka, de la vidéo comme Spicy. Alors pour autant, on est loin peut-être du grand reportage qui avait fait les belles heures de la presse populaire au début du XXe siècle avec ses stars Albert Londres, Henri Béraud, André Violis ou Joe Kessel. La forme y était souvent plus littéraire, le grand reportage était feuilletonné, le côté épique du récit dépassait parfois l'effet brut. Le reportage contemporain me paraît plus dépouillé, plus factuel. Les sons, les images, les réseaux sociaux sont peut-être pour quelque chose qui incite à davantage de sobriété, de transparence. En revanche, s'il y a un point commun, me semble-t-il, ce serait peut-être celui de l'empathie. L'empathie entre le journaliste et ceux sur lesquels il rapporte.
Merci beaucoup, Jean-Marie Charron, sociologue des médias. L'émission se termine. Merci à tous. Et les coulisses des meilleurs reportages de l'année, j'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Anne Lamotte, grand reporter à France Info et lauréate du prix du reportage Radio France 2015 pour Les gens m'appellent Enjoy Phoenix. Philippe Randé, grand reporter à France Inter pour ses interventions et ses reportages lors des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Xavier Mounz, lauréat du prix Bayeux des correspondants de guerre pour son documentaire Au cœur de la ligne de front, encerclé par l'État islamique et diffusé sur Arte. Omar Waman, 12 jours dans la vie d'un réfugié, un document remarquable diffusé dans le magazine Interception sur France Inter le 18 octobre dernier. Merci et bravo à vous quatre pour votre passion du reportage, votre talent, votre modestie. Tous vos reportages, tous les liens qui me conduisent à vos reportages sont sur notre site franceculture.fr. Notre regard extérieur aujourd'hui qui nous a accompagnés, Jean-Marie Charron, sociologue spécialiste des médias dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Alexandre Agège, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr. Avec aux manettes aujourd'hui Jean-Guilain Meige. Dans un instant, le journal de Marie-Alix Othé, suivi de répliques. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture.
Je suis parti pour faire un reportage. Avant tout, moi, je ne suis pas un militant d'association d'aide aux réfugiés, mais je me suis dit, il faut être avec une famille et la suivre pour l'humaniser un maximum. Essayer de faire comprendre à l'auditeur que derrière ces parcours, il y a des parents qui veulent offrir une vie meilleure à leurs enfants.
Qu'on a souvent quand on filme, parce qu'on a le prisme de la caméra qui... On a un écran supplémentaire par rapport à la réalité. Ça se passe dans le cadre de la caméra. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que la vraie vie, elle est en dehors. Elle se passe aussi en dehors du cadre.
J'y croyais pas du tout, pas une seule seconde. Il vient me voir avec une dépêche, je crois, et il me dit, voilà, il y a cette fille qui cartonne sur Internet, il faut faire un truc sur elle. Moi, je lis le truc, je vais voir une vidéo sur Internet, je me dis, oh là là, ça ne va pas aller du tout, ça ne va pas me plaire.